RCL, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Nous sommes en direct de Washington, dans le studio 13, avec vous ce soir, Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, à la une ce soir.
Une délégation centrafricaine en visite à Brazzaville pour discuter de la formation du nouveau gouvernement.
Le virus Ebola continue ses ravages en Afrique de l'Ouest, mais à Conakry, les sceptiques demeurent.
J'avoue qu'ici, il y a certains qui n'y croient pas, car aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, le premier remède, c'est la prévention.
Au nord Kivu, direction pour le parc des Virunga, et les populations locales se mettent d'accord pour délimiter la zone des éléphants et préserver les récoltes.
Parce que le parc national des Virunga n'a plus beaucoup d'éléphants. Et donc, nous attendons une certaine franche collaboration avec la population de façon que ça puisse aider à bien conserver le parc des Virunga.
Nous reviendrons aussi sur le manque de pluie qui inquiète les producteurs maliens.
Sans oublier les sports en fin d'émission avec Bagassi Koura, mais tout d'abord le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, bonsoir.
Le futur gouvernement centrafricain en question ce lundi à Brazzaville. Une délégation d'au moins 10 personnalités a été conviée à rejoindre la capitale congolaise pour rencontrer Denis Sassou Nguesso, médiateur dans cette crise. À Bangui, plus d'une semaine après la nomination du nouveau Premier ministre Mahamat Camoun, Bangui attend toujours un nouveau gouvernement. Le point tout de suite avec Félix Yepa-Sizembrou.
Parmi les personnalités conviées à Brazzaville figurent le président du Parlement provisoire, les représentants des plateformes politiques de l'ex-coalition Séléka et ceux du groupe de travail de la société civile. Rien n'a filtré concernant les motifs de ce déplacement, mais chaque camp assure avoir reçu une invitation individuelle de Brazzaville. Selon certaines sources, l'idée de cette rencontre émane de ces entités. La République du Congo assurerait juste un appui logistique. Au plan intérieur, les parties prenantes n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la formation du prochain gouvernement de large ouverture. Joseph Bedunga, président du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique, estime que la chef de l'État est dépassée par les événements.
La triste réalité centrafricaine est que la présidente de la transition est dépassée par les événements. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Malabo a fait ce constat.
Notons qu'au centre nord du pays, plus d'une quarantaine de civils auraient été tués entre samedi et dimanche par des ex-Séléka dans la localité d'Embré. Environ 430 autres ont retrouvé refuge à Kaka-Bandoro.
Nouvelle conséquence de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le Cameroun a décidé de fermer sa frontière avec le Nigeria. Les deux pays partagent une frontière commune de près de 2000 km. Le Burkina Faso a décidé de reporter, en raison d'un défi sanitaire, une réunion prévue début septembre avec l'Union africaine consacrée à l'emploi et la pauvreté. Annonce faite ce lundi par Djibril Bassolé, le ministre des Affaires étrangères, même si aucun cas de fièvre Ebola n'a encore été enregistré au Burkina.
Au Libéria, des patients atteints du virus Ebola sont activement recherchés après l'attaque ce week-end d'un centre d'isolement à Moronvien. Le point avec Nathalie Barge.
Dans la nuit de samedi à dimanche, des jeunes armés de gourdins et de couteaux ont pillé le centre de traitement préliminaire d'Ebola en banlieue de Monrovia. L'attaque a provoqué la fuite de 17 patients porteurs du virus qui sont toujours recherchés, a indiqué l'AFP, citant le ministre de l'Information Lewis Brown, soulignant que les pilleurs ont emporté des matelas et des draps souillés, des fluides venant du corps des malades. Monsieur Brown, porte-parole désigné par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, pour les questions concernant Ebola, a évoqué une possible mise en quarantaine du quartier West Point, où le centre avait été improvisé dans un lycée. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le Libéria est le pays le plus sévèrement touché, avec 413 morts sur 1145 victimes en Afrique de l'Ouest, où ce pays a dépassé la Sierra Leone et la Guinée début août. À savoir qu'en Sierra Leone, 32 infirmières sont mortes de l'Ebola depuis le mois de mai, ont affirmé les autorités sanitaires à Freetown. Au Nigeria, où 4 personnes ont succombé à la maladie, le ministère de la Santé a déclaré ce lundi que 5 autres patients ayant été soignés ne sont plus en danger. Le Nigeria a enregistré un total de 12 cas confirmés jusqu'à ce jour. Face à cette situation, l'Agence européenne pour la gestion des frontières a décidé de suspendre ses vols de rapatriement d'immigrés illégaux vers le Nigeria.
Parlons à présent du M23 qui accuse l'armée congolaise d'avoir exécuté 10 prisonniers de guerre.
Dans un communiqué, les ex-rebelles se déclarent totalement affligés et réclament une enquête internationale. Ces 10 personnes seraient tous des ex-membres du CNDP et auraient été tuées par les renseignements militaires congolais à Kinshasa entre juillet et août 2014. Ces graves accusations sont démenties en bloc par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
C'est totalement faux, ça n'a même pas de sens. Même si on avait arrêté Makenga ou Ntaganda, il n'aurait jamais été exécuté. Aucune source ne confirme cet incident. En attendant d'avoir des renseignements plus précis, nous savons qu'il y a eu des arrestations d'éléments de l'ex-mouvement M23 qui n'existe plus dans le territoire de Massissi, qui essayaient de reconstituer des réseaux criminels. Ils ont été présentés à la presse à Goma. Tout s'est passé le plus normalement du monde et ils sont à la disposition de la justice militaire.
Lambert Mende, joint par Sarah Diaby à Kinshasa.
Au Kenya, la police antiterroriste aurait fait disparaître et exécuter des suspects, accusation lancée par Human Rights Watch qui dit s'appuyer sur des preuves solides. Ces unités antiterroristes kenyanes sont en partie financées et entraînées par les États-Unis et le Royaume-Uni. En avril dernier déjà, la Fédération internationale des droits de l'homme avait dénoncé une impunité généralisée au Kenya, notamment de graves abus commis au nom de la lutte antiterroriste.
Effondrement d'un immeuble en construction dans la banlieue de Johannesburg. 8 ouvriers ont été tués selon un premier bilan et d'autres personnes pourraient être encore coincées sous les décombres.
Au Sénégal, reprise ce lundi du procès de Karim Wade, le fils de l'ancien président, est jugé par la cour de répression d'enrichissement illicite. Les débats avaient été suspendus le 6 août dernier après que les avocats de Karim Wade aient accusé la CREI pour incompétence, demandant que leur client soit jugé devant la haute cour de justice. Karim Wade, je vous le rappelle, est en détention préventive depuis avril 2013. Il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros.
On reste à Dakar, où l'université Cheikh Anta Diop est paralysée par une grève illimitée. Les étudiants refusent toute discussion avec le gouvernement après la mort d'un des leurs, Bassirou Faye, sur le campus la semaine dernière. Tidiane Cissé est le porte-parole du collectif des étudiants de l'UCAD.
Effectivement, elle est effective, d'autant plus que le mouvement est respecté par tous les étudiants de l'université Anta Diop. Au moment où nous parlons, le mot d'ordre qui a été enclenché est respecté par tous ces étudiants. Il n'y a pas cours depuis un bon bout de temps, depuis qu'on a arrêté tout ce qui est activité au sein de l'université Anta Diop, que ce soit à côté pédagogique et social.
Hier, le président Macky Sall a quand même affirmé qu'il était ouvert à un dialogue avec les étudiants.
Il dit qu'il est ouvert, mais il y a une condition sine qua non qui a été au préalable posée. Tant que les deux ministres qui ont commis ces forfaitures ne démissionnent pas, nous ne pouvons pas entrer en discussion avec l'État du Sénégal.
Tidiane Cissé, coordinateur du collectif des étudiants de l'UCAD, joint par Lola Akomachri.
À Harare, la police zimbabwéenne a arrêté des militants de l'opposition et une journaliste lors d'une manifestation ce lundi, alors que le pays accueille un sommet régional de la SADC. Selon des témoins, la police anti-émeute a dispersé à coups de matraque une manifestation organisée par les jeunes du mouvement pour un changement démocratique. Ils exigeaient que le président Robert Mugabe tienne sa promesse électorale, à savoir créer 2 millions d'emplois.
À Djouba, les forces de sécurité sud-soudanaises ont contraint samedi une radio indépendante à cesser d'émettre. La radio Bakita, qui fait partie d'un réseau de stations communautaires gérées par l'Église catholique, est toujours fermée et son rédacteur en chef, Ocean David Nicolas, est détenu pour avoir équilibré un article sur de nouveaux combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les troupes de son ancien vice-président Riek Machar. C'est en tout cas ce qu'indique la radio sur son site internet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 19h39, temps universel. Dans le reste du monde, en Ukraine, de nouveaux combats ont opposé ce lundi les rebelles pro-russes à l'armée de Kiev dans l'est du pays. Pendant ce temps, en Allemagne, les pourparlers entre Ukrainiens et Russes n'ont pour l'heure abouti à aucune avancée sur un cessez-le-feu. Jacques Aristide.
En effet, situation toujours très tendue sur le terrain. D'après le porte-parole militaire ukrainien, les insurgés pro-russes ont, je cite, « tiré sur une colonne de réfugiés près de Lugansk avec des lance-roquettes multiples et des mortiers livrés par la Russie ». Il y a eu de nombreux morts civils, a déclaré Andriy Lysenko, et d'ajouter que 9 soldats ukrainiens ont été tués et 20 blessés en 24 heures au cours de l'opération militaire des forces gouvernementales pour reprendre aux rebelles leur bastion de Lugansk. Sur le front diplomatique, la rencontre depuis dimanche à Berlin des chefs de la diplomatie ukrainien, russe, français et allemand n'a rien donné de concret sur un arrêt des combats et un règlement politique, comme confirmé ce lundi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a toutefois affirmé qu'un compromis a été trouvé concernant l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine. L'agence Interfax rapporte que des représentants du Comité international de la Croix-Rouge escorteront les convois humanitaires russes en Ukraine après avoir été passés au crible par les gardes frontières et les douaniers ukrainiens. En visite à Riga en Lettonie, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé au maintien des sanctions occidentales contre la Russie pour, dit-elle, empêcher une aggravation de la situation en Ukraine.
Nouveau bilan du conflit israélo-palestinien. 2016 Palestiniens, dont 541 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le déclenchement de l'offensive israélienne contre le Hamas début juillet. C'est ce qu'indique le ministère palestinien de la Santé. Côté israélien, on dénombre 67 morts, dont 3 civils.
Et depuis une semaine, Israéliens et Palestiniens poursuivent des négociations au Caire pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu durable. La trêve expire ce soir à minuit. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou prévient déjà qu'Israël se tient prêt à toutes les éventualités et frapperait avec force en cas de reprise des tirs de roquettes palestiniens.
Aux États-Unis, le ministre de la Justice Eric Holder a rencontré aujourd'hui Barack Obama suite à la mort de Michael Brown. Ce jeune Africain-Américain a été tué par un policier blanc dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri. Un événement qui a provoqué plusieurs nuits d'émeutes. Ce lundi, une deuxième autopsie demandée par la famille a révélé que le jeune homme a été atteint de 6 balles. Plus d'explications avec Bagassi Koura.
Les avocats de la famille Brown ont affirmé que les résultats de l'autopsie préliminaire montrent que l'adolescent âgé de 18 ans tentait de se rendre quand il a été tué. Lors d'une conférence de presse à Ferguson, les avocats ainsi que deux experts légistes ont souligné que la nature des blessures confirme les propos des témoins selon lesquels le jeune homme était en train de se rendre lorsque le policier Darren Wilson l'a abattu. Selon Michael Baden, ancien médecin légiste de la ville de New York, les 4 premières balles ont atteint l'adolescent au bras droit, les 2 dernières à la tête. Il n'y avait pas de traces de lutte, a également ajouté le médecin légiste lors d'une conférence de presse, ce qui semble contredire la version officielle selon laquelle Michael Brown, qui n'était pas armé, aurait été impliqué dans une altercation avec la police. À la demande du gouverneur de l'État du Missouri, Jay Nixon, des gardes nationaux vont être déployés dans la ville. De violentes manifestations et des pillages ont lieu à Ferguson, presque chaque jour depuis le 9 août.
Et l'actualité ce soir, c'est aussi l'Irak où les Américains ont mené 15 frappes aériennes ce lundi contre des positions de l'État islamique, en particulier autour du barrage stratégique de Mossoul, la deuxième ville d'Irak selon l'armée américaine. 9 positions de combat des insurgés et 6 véhicules blindés ont été détruits, ce qui a permis aux forces kurdes de reprendre le plus grand barrage d'Irak dont les djihadistes s'étaient emparés le 7 août dernier.
Suite à des pluies torrentielles au Népal et dans le nord de l'Inde, près de 200 personnes sont mortes et 136 sont portées disparues. Des villages entiers ont été dévastés par des inondations et des glissements de terrain. Une véritable tragédie nationale, selon Suhail Koirala, le premier ministre népalais. Les pluies de mousson et les glissements de terrain font des centaines de morts chaque année à la même époque en Asie du Sud.
Julian Assange va-t-il enfin quitter l'ambassade d'Équateur à Londres? C'est en tout cas ce que laisse entendre le fondateur de Wikileaks. Lors d'un point de presse conjoint avec le ministre équatorien des Affaires étrangères, Ricardo Patino, Assange a promis qu'il quitterait sous peu la représentation diplomatique où il vit reclus depuis 26 mois. Un enthousiasme néanmoins tempéré par les responsables du site Wikileaks ainsi que les autorités britanniques. Je vous rappelle qu'Assange fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la Suède dans le cadre d'accusations d'agression sexuelle.
Voilà pour le journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pinault en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Nous vous en parlions dans le journal, l'épidémie d'Ebola. Malgré la propagation rapide du virus sur le continent, il y a encore des sceptiques en Guinée. Selon une enquête réalisée par une ONG locale, les habitants de Conakry sont nombreux à ne pas croire l'existence du virus. Les autorités sanitaires guinéennes ont donc décidé de renforcer la sensibilisation, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Une enquête réalisée par le Centre communautaire pour le développement de l'éducation, CECOD, révèle qu'il y a encore des résistances à la lutte contre Ebola. Selon les enquêteurs, 24% des personnes interrogées ne croient pas que Ebola existe en Guinée et 4% restent dubitatifs. Malik Ba, président du CECOD.
Les résultats du sondage ont montré que, avec tout ce qui est fait en matière de sensibilisation, il y a encore des résistances. Il y a encore des obstacles pour une meilleure communication. Pour qu'une communication soit efficace, il faut que les a priori, les préjugés des citoyens soient pris en compte.
Le sondage a été réalisé à Conakry. Le ministre guinéen de la Santé salue l'initiative et souhaite que les enquêteurs aillent dans les autres localités du pays. Dr Rémi Lama compte sur le CECOD pour enrichir la communication vers les populations.
J'avoue jusqu'ici, il y a certains qui n'y croient pas. Donc on a besoin d'une telle enquête pour voir exactement quel type de message il leur faut pour qu'ils puissent vraiment accepter, collaborer avec les services de santé, accepter de se faire prendre en charge, car aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, le premier remède, c'est la prévention. Le premier remède, c'est la détection précoce des cas afin d'une prise en charge efficace. Comme nous l'avons toujours dit, plus tôt on est reçu dans les centres de traitement, mieux ça vaut.
Le président Alpha Condé a déclaré il y a quelques jours l'état d'urgence sanitaire national pour lutter efficacement contre Ebola. Maintenant, l'heure est à la participation de tous, a souligné Dr Sakoba Keïta, chef de la division prévention et lutte contre la maladie.
Tout le monde doit agir pour qu'on puisse mieux contrôler cette maladie dans notre pays. Donc en dehors de ça, il y a des mesures contraignantes qui sont contenues dans l'urgence sanitaire que vous devez nous aider afin que la population les accepte. Cette première grande mesure, c'est l'empêchement des contacts de se déplacer hors de leur localité pour ne pas exporter la maladie. Une deuxième composante, c'est que vous devez nous aider pour que toute personne venant du Libéria ou de la Sierra Leone soit notifiée au service de santé.
Depuis janvier, la Guinée a enregistré 523 cas, dont 380 décès et 18, c'est le nombre de personnes malades dans les centres de traitement. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Au Nord Kivu, le parc des Virunga va-t-il enfin retrouver la paix éclair ?
En tout cas, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les communautés riveraines du Rutshuru ont participé ensemble aux travaux de délimitation du parc. Une étape importante pour séparer les exploitations agricoles du domaine protégé où les éléphants peuvent évoluer librement. Une clôture électrique sera érigée pour éviter que les pachydermes ne détruisent les parcelles des agricultures comme l'an passé. Primo Pascal Rudaigua, notre correspondant, nous en dit plus depuis Goma.
Cette initiative vise surtout à protéger les animaux et la concession du parc des Virunga, envahi depuis plusieurs années par les populations riveraines. Ephrem Balole est chargé des projets de développement au parc national des Virunga.
Nous voulons que la faune ne puisse plus être détruite, parce que dans la zone de Kaunga, on a perdu plus de 12 éléphants les 5 dernières années. C'est énorme. Parce que le parc national de Virunga n'a plus beaucoup d'éléphants. Et donc, nous attendons une certaine franche collaboration avec la population de façon que ça puisse aider à bien conserver le parc de Virunga. Et cela pourra permettre de pouvoir sauvegarder la faune, notamment les éléphants, les buffles et les antilopes qui fréquentent la zone de conservation intégrale que nous sommes en train de zoner pour le moment.
Le représentant de la population locale, Modeste Kabori, confirme qu'un terrain d'entente a été trouvé entre la population et l'Institut national de conservation de la nature. Un comité de dialogue sera constitué entre le parc et la chefferie de Bouisha pour éviter le malentendu dans l'avenir.
Nous nous sommes convenus avec l'ICCN. Nous allons créer un comité de dialogue entre le parc et la chefferie. Les associations qui auront les champs à la limite du parc seront des membres de ce comité de dialogue. Nous allons poursuivre avec les sensibilisations.
Ephrem Balole insiste sur le respect des accords, sinon les récalcitrants seront arrêtés et transmis à la justice.
Nous ne voudrions pas que, après avoir fait ce travail, on retrouve encore du jour au lendemain les gens en train de cultiver dans le parc. Les conservateurs qui sont à côté de moi seront tout à fait sévères vis-à-vis de ça.
Quelques organisations régionales et locales ont contribué à décanter le conflit qui existait entre le parc national de Virunga et la population riveraine. Onesforce Matumba est directeur de l'information et plaidoyer à l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, Pole Institute.
Ceci est l'aboutissement d'un processus de négociation et de médiation auquel Pole Institute a pris une part active avec la participation de toutes les parties prenantes. Ceci est surtout l'illustration d'une évidence. Les initiatives locales peuvent aboutir à des résultats positifs.
Depuis Goma, Primo Pascal Rodahigua pour La Voix de l'Amérique.
Chez le voisin congolais à Brazzaville, la modernisation des préfectures se poursuit.
Lancée depuis 2004, cette politique du gouvernement a permis de construire entre autres des routes bitumées ou des aéroports. Cette année, c'est le tour de Sibiti, une ville du sud-ouest. Les populations locales s'en réjouissent, mais certains auraient préféré voir la construction d'usines et dénoncent de nouveaux palais présidentiels sortis de terre. Notre correspondante Gwélan Goussou a mené l'enquête à Sibiti.
Cet engin des travaux publics nivelle ce soit 6 km de la route Sibiti-Komono dans le sud-ouest du Congo en pleine forêt. Une ouverture qui réduit aujourd'hui la distance entre Brazzaville ou Pointe-Noire et Sibiti, la capitale départementale. Jacques Mbonguntamba, habitant de Sibiti, dit sa satisfaction.
Il y a eu tellement de chantiers qui se sont simultanément engagés dans tous les points de la ville, les voiries urbaines, le stade, le palais présidentiel, l'aéroport, les logements sociaux. Avant, on pouvait faire une semaine pour atteindre Bambama à 185 km d'ici. Mais aujourd'hui, en 3 heures, vous êtes à Bambama. Zanaga à 165 km, en 2 heures, vous êtes. Et c'est ouvert sur Pointe-Noire en 5 heures, 6 heures de temps, en passant par Doulizi, où vous passez 2 heures ou un caï. La circulation est très intense.
Ceci grâce à la politique de municipalisation accélérée initiée depuis 2004 par le gouvernement. Construire chaque année dans un département choisi des routes, des aéroports, des bâtiments administratifs et des hôpitaux. Sur les 18 000 km de routes à bitumer, par exemple, 5 000 l'ont déjà été grâce à cette politique. Mais pour l'opposant Clément Mirassa et plusieurs autres Congolais, certaines réalisations en province auraient pu être remplacées par des unités de production sources d'emploi.
On dit souvent que je ne reconnais pas ce que le président Sassou fait. J'ai vu les images des capitales régionales, etc. Je crois que si j'ai vu Sibiti, Sibiti a une bonne image, etc. Mais ce qui est fait est en deçà de ce qui devait se faire. Il devrait avoir l'amélioration des conditions de vie. Il devrait avoir une attention particulière aux problèmes des jeunes, aux problèmes de l'école, de la santé dans ce département, de sorte qu'après, les habitants puissent se sentir un léger mieux, ce qui n'est pas le cas. Il y a un communiqué de la Banque mondiale qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui relève qu'il y a l'aggravation de la pauvreté rurale, ce que nous dénonçons.
10 ans après le lancement de la municipalisation accélérée, c'est la ville de Sibiti, naguère une bourgade boueuse et poussiéreuse, qui a bénéficié cette année de 27 km de voirie urbaine à la satisfaction des populations. De retour de Sibiti, Nguela Ngoussou, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
19h53, temps universel. Claire, direction Bamako à présent.
Le Mali, où la pluie se fait attendre cette année et les cultivateurs et producteurs se désespèrent, c'est toute la filière agricole qui craint une mauvaise récolte si l'eau ne tombe pas. Le gouvernement malien a déjà démarré une campagne de distribution de céréales pour alléger la période de soudure dans les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Kassim Traoré est le correspondant de La Voix de l'Amérique à Bamako. Voici son reportage.
La perturbation pluviométrique a joué sur le début de la saison hivernale au Mali. À l'analyse de l'évolution des emblavures, c'est-à-dire la surface cultivée et la situation phytosanitaire, il n'y a pas de crainte, à condition que la pluie continue avec son rythme actuel. Car la surface cultivée pour toutes les cultures confondues est estimée à plus de 5 500 000 hectares. Mamadou Samake, directeur national de l'agriculture.
Pour comparer le 2013, du point de vue du niveau de l'irrigation, pour 2014,
pause est plus élevée que 2013. Sauf que 2013, l'effet de la pause pluviométrique a été moins fort. La pause pluviométrique a surtout joué sur le maïs hybride. En comparant les deux années, nous dirons que cette année, on a fait plus que l'an passé.
Pour ce qui est des ressources pastorales, l'état des pâturages est jugé satisfaisant avec la régénération des herbacées. L'abreuvement des animaux s'effectue pour le moment sans difficulté majeure. Les troupeaux transhumants font leur déplacement dans le respect de conventions locales. Le secteur de la pêche n'est pas aussi oublié.
Plus de 100 000 tonnes de poissons par an. 100 000 tonnes. Et pour qui c'est la moyenne, le prix moyen du poisson sur le marché aujourd'hui, en faisant une petite comparaison, on peut dire que la pêche a toujours sa place au sein de l'économie malienne.
Le commissariat à la sécurité alimentaire sillonne l'intérieur du pays pour faire face à la période de soudure dans les villages et hameaux. Kone Sitan Kloubali, chef de la mission de supervision dans la région de Ségou.
Ma satisfaction est totale, surtout par rapport à l'implication de l'administration, qui est satisfait par le niveau d'implication des élus, qui a tout. Il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été remontées totalement. Il a fallu que la mission arrive pour constater que certains sites sont mis en place et ils avaient besoin d'être accompagnés. Ils n'étaient pas dans le schéma classique. Grâce à notre mission de suivi, aujourd'hui, on les a identifiés et le ministre a décidé de les apporter à manger.
Issa Koulibaly, bénéficiaire de la distribution gratuite des céréales par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cercle de Nyounou.
Je vais avoir reçu 626 tonnes de mille sorgho à l'effet d'être distribué dans les communes du nord du cercle de Nyounou. Alors, vous imaginez aisément que dans les autres communes, il peut y avoir aussi des poches. Nous sommes actuellement à Boudamewore, une communauté qui est entrée de la République islamique de Mauritanie sur le camp des réfugiés d'Embera depuis février.
Aujourd'hui, le souhait des paysans et autres producteurs maliens est qu'il ait encore de la pluie en abondance, sans quoi il y aura une prolongation de la période de soudure et ce ne sont pas des distributions de céréales qui pourront résoudre le problème. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
On passe à sport dans cette émission, nous accueillons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Actualité très footballistique, on va parler de la CAN Junior. Hein.
Oui, résultat du dernier tour aller, la Libye a battu la Côte d'Ivoire 2-1 à Tunis. Le Cameroun et l'Afrique du Sud ont fait jeu égal 1 but partout. Défaite du Malawi, 1-2 face à la Zambie. Les Lesotho ayant signé forfait en raison du virus Ebola, de l'épidémie Ebola. Le Nigeria s'est qualifié. Hier dimanche, score vierge 0-0 entre le Ghana et le Gabon. 2-0 pour le Congo contre l'Égypte. Victoire 2-0 du Mali face au Togo.
On va parler à présent du championnat du Sénégal.
Oui, pour la première fois de son histoire, l'AS Pikine a remporté la finale de la Coupe du Sénégal. Le club de la banlieue de Dakar a battu celle de l'Olympique de Ngor 2-1. Après prolongation, ce succès de Pikine intervient quelques semaines seulement après le sacre, également le premier en championnat. Vous entendrez donc...
Voilà, Moudou Fall qu'on a entendu dans ce programme voilà, à 19h. Ouais. Hein. On va parler football en Europe.
Oui, l'attaquant du FC Barcelone, le Brésilien Neymar, blessé avec la sélection brésilienne donc lors du Mondial, a reçu ce lundi le feu vert des médecins pour jouer en compétition. C'est ce qu'a annoncé le club catalan moins d'une semaine de la reprise du championnat espagnol.
Merci beaucoup, c'était Bagassi Koura pour les sports.
This is the voice of America. Washington, Zip. D.C.
I'm being dragged down, down by the hand.
Une petite pause musicale maintenant dans cette édition avec le Sénégalais Fahada Freddy et son Little Black Sandals.
Crashing my knuckles, speeding my skin. He says he'll let go, if only I'd ask it of him. He said, girl, it's your call. You wanna fly, you wanna fall. So I shout, who wanna get away from you as fast as I can? I tell my feet to move it, I hope they have a plan. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. Yeah. free from the big bad giant who was stalking me. Thank you, fears, for guiding me. I'm glad somehow I got brains down there at least.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ces éditions du soir. Je vous propose de nous retrouver sur le site de La Voix de l'Amérique et sur notre profil Facebook. Je remercie également Georges Leonardo Sagno pour la réalisation, à la console Darrell Smith. Nicolas Pinault et Claire Morin-Gibourg vous ont accompagné dans ce studio 13 à Washington. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.